Maxime Maury, Economica.
Jacques Lavergne, bonjour.
Dire la vérité.
Dire la vérité sur l'économie, oui Maxime, bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de notre Economica, Maxime Maury, Jacques Lavergne, bien sûr. Commençons par les citations, on a pris des habitudes, elles ne sont pas si mauvaises que ça, poursuivons-les. Alors j'ouvre le bal. Peut-être la suprême vertu en notre siècle serait-elle de regarder en face l'inhumanité sans perdre la foi dans les hommes. C'est de Raymond Aron.
Alors moi, c'est une citation en anglais que je vais traduire en français, mais vous allez rapidement la reconnaître. Elle a été choisie pour la circonstance. « I only promise sweat, blood and tears. We'll fight in our towns, on our beaches, we shall never surrender. » Winston Churchill, je ne vous promets que de la sueur, du sang et des larmes, nous nous battrons dans nos villes, sur nos plages, nous ne nous rendrons jamais. Voilà.
Le temps est donné, nos auditeurs savent qu'effectivement, nous sommes deux joyeux drilles et nous allons les détendre. Bon, pas vraiment, mais on ne va pas. Regarder la vérité et les choses en face permet de mieux y faire face, de mieux s'organiser, de mieux les combattre. Donc, il est important effectivement d'être factuel et de dire cette vérité sur l'économie que nous appelons toujours de nos voeux. Alors aujourd'hui, nous parlerons des perspectives sanitaires et des perspectives économiques dans un premier
elles
temps.
Elles sont indissociables, oui, oui.
Voilà, puis de la situation du système bancaire et les potentiels risques de crise financière en 2021-2022. Et Maxime nous fera part de sa conclusion en disant crise financière peut-être, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait les parer, ces fameuses crises. Vous nous direz ça tout à l'heure.
Oui, c'est ma conclusion. J'essaierai de faire la démonstration.
Bon, nous sommes sûrs que vous allez y arriver. Alors, commençons par quelques brèves. J'émaillerai de 3-4 brèves notre discours aujourd'hui. La première brève est une question que beaucoup se posent. On se demande, mais pourquoi nous ne sommes pas capables de produire un vaccin ? Question qui a été traitée par un monsieur qui s'appelle Philippe Escande, et je ne me fais que l'écho de son éditorial du Monde. Philippe Escande est un journaliste économique ancien des Échos et membre du bureau de l'Association des journalistes économiques et financiers. Et il nous dit dans l'introduction de son papier, « Derrière l'Institut Pasteur et Sanofi, c'est tout l'appareil de la recherche française qui a décroché. » Et lui, d'entrée, il a une conclusion qui est assez terrible. Il nous dit « La France tourne le dos à son avenir. Les récents échecs de l'Institut Pasteur et de Sanofi, les deux fers de lance de la filière pharmaceutique française, mettent bien en lumière la faiblesse française en matière de recherche pharmaceutique. » Et il nous cite une récente note de ce qu'on appelle le CAE, autrement dit, le Conseil d'analyse économique publié le mardi 26 janvier, donc vous voyez, c'est tout récent, note qui dit « c'est tout l'appareil de recherche française qui a décroché ». Et la crise sanitaire a bien souligné cette carence et il précise que la recherche pharmaceutique est aujourd'hui l'activité économique et industrielle la plus liée à la recherche fondamentale. Aucun autre secteur, nous dit-il, n'a autant besoin d'un lien fort et direct entre les entreprises et les laboratoires des universités. Malheureusement, nous savons que notre université et les crédits publics sont en berne chez nous. D'ailleurs, les crédits publics consacrés en France à la santé, si on regarde ce que font nos voisins, sont deux fois inférieurs à ceux de l'Allemagne et ils ont diminué de 28% entre 2011 et 2018. Alors que outre-Rhin, ils augmentaient de 11%, et même chez nos amis anglais, qui en matière de vaccins savent de quoi ils parlent, ils augmentaient de 16%. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, on est quand même un peu en déshérence, même au niveau des chercheurs. Si vous regardez le salaire, le moyen en début de carrière d'un chercheur français, bien vous savez à combien il s'établit, en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, 63% de moins. Enfin, c'est catastrophique. Et la note du CAE, ce fameux Conseil d'analyse économique, souligne, je le cite, le lent déclin français en matière de brevets entre le milieu des années 90 et celui des années 2000. Donc, c'est un constat complètement désastreux sur l'état de la France, qui n'a pas tenu au surplus sa promesse européenne, vous savez, qui était réitérée d'ailleurs plusieurs fois, qui était de consacrer 3% de son PIB à la R&D. Aujourd'hui, elle est à 2,2%. Alors, si vous cherchez à savoir pourquoi nous ne sommes pas fichus de produire un vaccin, en dehors des problèmes de Sanofi, qui, on l'a vu, est plus en train de produire des dividendes que des vaccins, en train de qui se sépare de beaucoup de ses chercheurs, eh bien, ne cherchez pas plus loin. Il y a très longtemps qu'on est mauvais, et donc aujourd'hui, eh bien, le résultat se fait durement sentir. On n'a pas consacré les fonds, on n'a pas travaillé à retenir nos chercheurs. Beaucoup s'en vont et partent notamment aux États-Unis. Donc là, problème, nous l'avons bien cherché, si je puis dire. Alors, autre problème qui, lui, est par contre mondial, c'est le marché des semi-conducteurs sur lequel se livre une grande bataille, puisque la pandémie de Covid-19 a fait flamber la demande de puces électroniques, et à un tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a des tensions colossales, et notamment dans l'industrie automobile, puisque, un exemple, au premier trimestre de cette année, le fabricant allemand Audi pourraient être contraints de renoncer à produire 10 000 véhicules tout simplement parce qu'ils n'ont pas les semi-conducteurs destinés à les équiper. Et même phénomène s'était produit à l'automne 2020. Apple avait été obligé de reporter la sortie de sa dernière génération de smartphones. Vous savez qu'il y en a toujours un nouveau dans les tuyaux en raison des mêmes problèmes d'approvisionnement qui ont été connus par Yamaha dans un autre domaine, qui est celui du matériel électronique. Panasonic a connu les mêmes difficultés. Et puis, nous avons également le géant chinois des télécoms Huawei, j'espère que je le prononce bien, qui est en bisbille avec les États-Unis, vous le savez, avec les autorités américaines, et qui a constitué des stocks colossaux de peur de se voir couper l'approvisionnement de ses puces, et de ses meilleures puces. Et ses rivaux en ont fait de même, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché a été totalement asséché, et un marché qui est en augmentation croissante, puisque le confinement, c'est ce que nous faisons d'ailleurs ce soir aussi, hein, on fait du télétravail, nous faisons des émissions qui ne sont pas en présentiel, avec des systèmes qui nécessitent ce type de puce. Et donc là-dessus, il y a une tension colossale. Nouvelles consoles de jeux qui sont sorties aussi. Alors nous, Maxime et moi, je pense, nous n'y jouons pas, ce n'est plus de nos âges, mais la PlayStation 5, la Xbox 10 et le déploiement de ces infrastructures également de réseaux 5G, nouvelle génération de téléphonie mobile, et l'arrivée de téléphones adaptés à cette nouvelle technologie, ben pour les faire marcher, il faut des puces, et le marché est totalement aujourd'hui saturé. La question qui se pose, est-ce que nous allons pouvoir récupérer des semi-conducteurs dans des délais brefs, ou on va rester dans un engorgement total du marché? C'est une question qui se pose, nous allons voir ce qui a été fait. Les États-Unis et M. Trump, et parfois il a fait quand même quelques bonnes choses. Monsieur Trump avait présenté deux projets de loi à l'été 2020 pour permettre d'accroître la part des États-Unis dans la production mondiale de puces. Aujourd'hui, les États-Unis n'en représentent que 12%. Donc peut-être que c'est une solution, mais elle est quand même très loin d'être mise en place. Et la Chine développe elle-même aussi, vous savez qu'elle a débloqué 90 milliards d'euros pour soutenir 105 projets de développement industriel dans ce secteur. Donc tout ça pour dire que l'épidémie de Covid-19 a des effets auxquels on ne s'attendait pas, que l'on n'avait pas prévu, et que ce marché des semi-conducteurs va représenter de très très gros enjeux dans les mois à venir. Voilà pour ma deuxième brève, je vous en donnerai deux autres tout à l'heure, mais pour l'heure, Maxime, parlez-nous donc des perspectives sanitaires et des perspectives économiques, les deux étant consubstantiellement liés.
Oui, moi je suis très frappé depuis quelques jours de voir que Bruno Le Maire et un économiste comme Patrick Artus, qui pour moi est le meilleur, estiment que les perspectives économiques sont en train de se brouiller. Et le ministre lui-même donne l'impression de ne plus croire aux prévisions de 5 à 6 qui étaient les prévisions dominantes pour l'année 2021. Bon, donc le sanitaire et l'économique sont vraiment indissociables et nous sommes inondés de mauvaises nouvelles. La stratégie « vivre avec le virus » était complètement fausse. Elle était complètement fausse parce que vivre avec le virus, c'est laisser se développer les variants. Et nous savons maintenant que les variants sont dangereux et que les variants vont remplacer le virus primaire. Et le professeur Delfrécy et le professeur d'ailleurs Raoult disent ce n'est plus la même épidémie, c'est une nouvelle épidémie. Alors, ce que je voudrais simplement, pour aider nos auditeurs à comprendre la situation, ils ne peuvent pas voir les graphiques que je suis en train de brandir devant vous et qui ont été publiés par le journal Le Monde le 18 janvier. Ce sont les graphiques qui illustrent le rapport du Conseil scientifique qui embarrasse beaucoup le président de la République en ce moment. Alors, ces graphiques, on peut les résumer en deux mots. Alors, je ne vous parle pas du scénario le plus pessimiste, je vous parle du scénario moyen. Le scénario moyen, c'est que la souche britannique sera dominante partout en France à la mi-mars. Et c'est un phénomène qu'on peut qualifier de darwinien, Charles Darwin, puisqu'elle est plus contagieuse, elle se reproduit plus que l'autre et elle va la remplacer. Alors, ce que nous dit le Conseil scientifique, c'est que, je cite mot à mot, « si aucune mesure potentiellement drastique, n'était prise, nous aurions besoin au mois de mars de 30 000 lits d'hôpitaux. 30 000 lits d'hôpitaux, c'est inimaginable. Nous en avons 5 000 en Covid et 3 000 hors Covid. Donc, nous devrions faire face à un véritable tsunami. » Et on voit bien la conséquence, les gens ne pourraient plus mourir à l'hôpital. Ils mourraient à domicile et c'est un scénario absolument insupportable. Donc, ce que nous dit le professeur Delfrécy, c'est que si des mesures potentiellement drastiques sont prises, potentiellement drastiques, alors nous pourrions réduire le nombre de lits à 8 000, et 8 000, c'est exactement ce dont nous disposons en ajoutant Covid, 5 000, et non-Covid, 3 000. Donc, ça vous montre la gravité des décisions que doit prendre dans les jours qui viennent le président de la République. Et bon, moi, je suis bien les économistes, mais je suis aussi les épidémiologues. J'ai lu ou écouté environ 10 épidémiologues ces derniers jours, et tous disent la même chose. Ils disent qu'il faut prendre des mesures tout de suite, et des mesures plutôt dures, parce qu'en prenant des mesures dure tout de suite, on aura beaucoup moins de problèmes qu'en les prenant plus tard. Voilà, voilà résumé la situation, et on voit bien maintenant que la perspective de sortir de la crise pandémique recule, et elle recule à peu près jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, ça crée une très grande incertitude économique.
En dehors de l'incertitude économique, on voit que certains de nos concitoyens, et ils ne sont pas les seuls, on a vu ce qui se passait en Hollande notamment, sont totalement réfractaires à être à nouveau confinés. Il y a une exaspération, il y a une lassitude, il y a une incompréhension aussi parce que rien n'est jamais clair. Tout le monde dit la sienne, comme l'on disait autrefois, la Haute Autorité de Santé parle de certaines choses, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris d'une autre. Si on va sur ces chaînes d'information en continu qui ne font pas toujours un travail très intéressant ni très sérieux, on voit des médecins qui se succèdent tout beaux, tout bronzés pour donner leur avis et ils ne sont pas toujours convergents. Alors on peut comprendre que nos concitoyens, et nous-mêmes les premiers d'ailleurs, je m'y inclus, soient un peu perdus dans tout cela. Comment politiquement le président de la République, je ne le critiquerai pas ni ne l'encenserai sur cette affaire parce qu'elle est particulièrement délicate, comment prendre une décision politique qui s'accorde avec les préconisations scientifiques et avec les embûches économiques?
Alors, moi, je ne me sens pas du tout perdu parce que j'ai l'impression, au contraire, que le discours des médecins est complètement convergent. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas s'embarrasser du mot confinement, parce que ce mot n'a pas du tout eu le même sens au mois de décembre qu'au mois de mars. Et donc, il faut voir le fond des choses. Il faut voir le fond des choses et pas le mot confinement. Bon, et ensuite, les graphiques que je vous ai présentés et que je vous ai adressés, j'ai même fait une petite note de synthèse pour un groupe d'amis dont vous faites partie, ils ont été publiés par le journal Le Monde, mais je pense que l'opinion ne les connaît pas. Donc, l'opinion a compris qu'il y avait un danger qui nous menaçait, mais quand on dit 30 000 lits si des mesures ne sont pas prises, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 25 000 personnes qu'on ne pourrait pas mettre dans ces lits, potentiellement, elles risquent de mourir à domicile. Donc, c'est vraiment un désastre sanitaire qui est en perspective si nous n'agissons pas. Donc, plutôt que de faire du blabla, moi, je vais vous dire les mesures qu'il faudrait prendre tout de suite. Et je vais vous dire, c'est très prétentieux de ma part, mais les mesures que je prendrais si j'étais président de la République. La première mesure, c'est d'anticiper ce qui va se passer au mois de mars. Et pour anticiper ce qui va se passer au mois de mars, nous avons besoin de recruter des infirmiers, des brancardiers et des gens qui soient capables d'administrer la vaccination. Parce que le risque, c'est que comme nos centres de vaccination se confondent aujourd'hui avec les hôpitaux, le jour où le tsunami va arriver, les personnels de vaccination vont être aspirés par les soins aux malades, les soins d'urgence, et la vaccination risque de s'effondrer. Donc, il faut recruter tout de suite des étudiants en médecine, supplétifs, avec une prime qui les aideront à financer leurs études. Il faut appeler des personnels de santé en retraite qui sont volontaires pour venir aider. Vous avez des personnels qui s'adressent aux députés et on ne leur répond pas. Il faut donc recruter une armée supplétive de santé pour consolider l'hôpital et consolider la vaccination. Alors, vous voyez, ce n'est pas le confinement, c'est vraiment consolider notre système de santé avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, je pense qu'il faut lancer un appel à l'autoconfinement des personnes fragiles dont nous sommes. Et puis, je pense qu'il faut interdire les déplacements le week-end ou en tout cas les limiter aux environs immédiats. Mais ce que je dis là, Jacques, il faut que vous soyez conscient que du point de vue du Conseil scientifique, ça ne sera pas suffisant quand on sera au mois de mars, probablement. Mais ce sont des mesures immédiates qu'il faut prendre pour avoir une chance de sauter cet obstacle au mois de mars. Voilà, donc je crois que ce qui se prépare est terrible. Enfin, il faut regarder les données scientifiques. La souche anglaise a été découverte en septembre dans le Kent et elle a conquis toute la Grande-Bretagne en 3 mois. Donc, on estime qu'à la mi-mars, elle sera partout en France et elle est 50 à 70% plus contagieuse. J'allais oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a encore des gens qui sont minoritaires, qui ne respectent pas les gestes barrières. Vous pouvez en voir tous les jours dans la rue. Et moi qui m'occupe beaucoup de jeunes et qui fais un tutorat aussi vis-à-vis des étudiants, je pense qu'il faut parler aux jeunes pour leur demander de respecter les gestes barrières. Personne n'ose le faire. Et moi, je propose qu'on mette des cadets de la gendarmerie sur le terrain, pour non pas pour mettre des amendes, pour parler aux jeunes et pour dire aux jeunes respecter les gestes barrières, sinon on va avoir de gros, gros problèmes au mois de mars. Est-ce que ça vous paraît clair ?
Ah, ça me paraît tout à fait clair, mais je pense, en vous écoutant, je pense aussi, alors on dit, bon, si tout allait pas trop mal, entre guillemets, 8000 lits seraient occupés, ce qui est le maximum de notre capacité, et alors quid des autres pathologies, quid des opérations, quid des suivis de ces longues maladies que l'on baptise ainsi pudiquement pour ne pas dire cancer, etc. Qu'est-ce qui va se passer ?
Ah ben bien sûr. Non mais nous sommes face à une catastrophe sanitaire et pour l'éviter, tout ce que nous pouvons faire, c'est respecter les gestes barrières parce que le virus britannique, il cède aux gestes barrières. Si on respecte les gestes barrières, on n'est pas contaminé. Et deuxièmement, nous préparer à ce choc en renforçant les personnels de santé par des personnels supplétifs. C'est tout. Et ensuite, des restrictions. Mais là, c'est au président de la République de dire quelles restrictions. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de se déplacer le week-end. sauf dans un rayon de 20 km. Alors, le problème, c'est que ce que vous me dites, là, je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Les médecins sont tous d'accord actuellement, tous. Là où je vous suis, par contre, c'est que l'opinion n'est pas instruite de cette situation. Et elle est évidemment lasse, mais on peut comprendre cette lassitude. Hein. Moi, je comprends parfaitement la lassitude. Mais demain, nous risquons de nous trouver devant beaucoup plus grave que la lassitude. Vous voyez, imaginez qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qu'on ne puisse pas hospitaliser et qui meurent chez elles. Enfin, vous voyez, c'est une véritable catastrophe. Donc, je crois qu'il faut, être raisonnable, et il faut s'armer de courage, il faut s'armer de la vérité et faire face à cette vérité. Et je crois surtout, et pardonnez-moi d'être un peu long, qu'il faut anticiper. Et malheureusement, ce que nous avons vu ensemble depuis 2 ans sur beaucoup de sujets, c'est que nous sommes dans des sociétés qui ont beaucoup de mal à anticiper.
Elles ont du mal à anticiper parce que le cerveau humain, et certains s'arrangent pour faciliter cette fâcheuse tendance, est beaucoup plus porté au court-termisme qu'au long terme. Et là-dessus, c'est un réel problème parce que l'on préfère effectivement quelques sucreries intellectuelle immédiate plutôt que des choses un peu plus compliquées qui nécessitent de réfléchir et qui nécessitent d'aller sur le long terme. Ça, c'est une des maladies de nos sociétés qui conduira peut-être d'ailleurs à l'affaiblissement, sinon pire, de nos civilisations. Cet amour du court-termisme est aujourd'hui devenu un problème colossal, mais on n'a pas l'impression que les gens sont effectivement très avertis, tout le monde a une opinion sur tout, ça c'est la maladie du siècle. Pour autant, là, l'esprit de responsabilité, l'esprit de citoyen que nous devrions avoir ne me semble pas toujours présent.
Mais ce que je viens de dire à l'instant, en disant il faut recruter des supplétifs, retraités, volontaires, étudiants, etc. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour dire ça. Il faut simplement se projeter vers l'événement avec ces graphiques que Le Monde a été le seul journal à publier et anticiper l'événement. J'ajoute aussi, et j'en aurai terminé pour ce qui me concerne, hein, c'est que moi j'ai enquêté sur notre système de vaccination. Jusqu'au début janvier, le gouvernement voulait tout miser sur les médecins généralistes. Et puis la Haute Autorité de Santé a complètement changé le dispositif. Les centres de vaccination, ce sont à hauteur des 2/3 des hôpitaux. Donc vous voyez bien que la vaccination, qui est notre seule arme, c'est une course de vitesse entre le virus et nous, et les éditorialistes l'ont compris maintenant. Eh bien cette vaccination, elle est fragile parce que quand le tsunami va être là, les personnels de santé qui vaccinent vont être aspirés par l'hôpital. Et donc, si nous ne recrutons pas dès maintenant des auxiliaires de vaccination, alors à ce moment-là, le risque, c'est que la vaccination s'étouffe et s'arrête quasiment. Et là, c'est le virus qui a gagné. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il suffit de prévoir et d'avoir l'esprit de Winston Churchill, qui est le courage et la décision de faire la guerre.
Vous me feriez presque penser, si je vous écoute, que nos dirigeants ne sont pas intelligents, puisqu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas prévu. Mais bon, c'est un autre débat. Nous faisons une pause, Maxime, on fait notre premier intermède musical, c'est le vôtre.
Alors, j'ai choisi une chanson de Joe Dassin en l'honneur du nouveau président des États-Unis, et c'est « L'Amérique » de Joe Dassin. Et je vous dirai quelques mots après, parce qu'à cette occasion, je vais vous proposer de changer l'éditorial de notre émission.
Bon, mais écoutez, ça, pour moi, ça constituera une Madeleine de Proust. Ça va me rappeler mes très vertes années, puisque ce n'est pas une chanson jeune. Mais nous allons écouter Joe Dassin, le regretté Joe Dassin, l'Amérique.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la. Et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans pour la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, d'argent ou sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté sans fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai.
Voilà, c'était Joe Dassin. Alors, Maxime nous souffle que c'était en 1978, hein, donc oui, on était tous, nous, très jeunes, et la plupart de nos interlocuteurs n'étaient peut-être pas nés, enfin, je l'espère, quand même. Alors, pourquoi ce choix, Maxime?
Parmi les rares bonnes nouvelles, pour moi, l'élection de Joe Biden et de Kamala Harris est dignity, la dignité, truth, la vérité, et science, la science. Donc, cette ligne éditoriale du nouveau président des États-Unis m'a redonné l'amour de l'Amérique et le goût de l'Amérique, dont j'avais été complètement écœuré par le prédécesseur. Prédécesseur auquel les médias français ont accordé une attention qui n'a d'égal que celle de l'audimat et du fric, si vous me permettez, parce que je pense qu'on a... On a beaucoup trop parlé de monsieur Trump. Et donc, moi, je vous propose que notre émission, désormais, ait comme ligne, non pas dire la vérité, mais la dignité, la vérité, la science. Voilà, et je pense que Joe Biden nous donne un véritable espoir et nous redonne tout simplement le respect de l'Amérique.
On lui souhaitait bon courage parce qu'il n'est pas encore arrivé quand même, ce garçon, mais il en a la volonté, il en a les qualités, c'est un homme d'État, oui. C'est un homme qui... connaît le terrain, c'est un homme qui a fait beaucoup de politique dans sa vie et qui est parfaitement à même, effectivement, d'essayer de renverser un peu la tendance. Malheureusement, il n'aura que 4 ans et peut-être que les Républicains ne vont pas non plus lui faire de cadeau. Mais ça, nous y reviendrons éventuellement plus tard. Alors, deuxième sujet, Maxime, mis au programme, la situation du système bancaire et potentiellement une crise financière qui pourrait nous survenir.
Comment voulez-vous qu'on traite le sujet?
Ah, je ne sais pas, c'est vous le grand spécialiste, dites-moi.
Vous savez, je fais 45 heures de cours à Toulouse Business School sur ce sujet, donc...
Non, là, on n'a pas 45 heures, hein, on va...
Oui, voilà, c'est bien ça. Comment le traiter en 15 minutes? Il n'y a que vous qui puissiez le dire, donc je réponds à vos questions, voilà. Alors, à vous de poser les bonnes, évidemment.
Ben oui... La réponse est oui, mais rappelez-moi donc la question, disait Woody Allen, je crois,
et bon, il avait raison. Que nous ayons en perspective une crise financière, ça, à mon avis, c'est assez probable.
Mais viendrait-elle de cette crise? Quelle en serait l'origine?
C'est tout simplement les chaînes de défaillance qui vont se mettre malheureusement en œuvre lorsque... Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement extravagante qu'on peut résumer en 3 chiffres. Le niveau de l'activité par rapport à 2019 est à moins 8%. Le crédit est à plus 13% et les défaillances sont au plus bas niveau depuis 30 ans. Et vous m'entendez, au plus bas niveau depuis 30 ans. Autrement dit, nous sommes comme un homme qui aurait 42 fièvres et qui courrait le jogging avec le sourire aux lèvres. Donc, c'est une situation extravagante. Donc, ce qui va se passer, c'est que progressivement, les défaillances vont se manifester. L'assureur Crédit Facolaire, par exemple, nous dit que les défaillances vont augmenter de 50% d'ici à 2022. au fur et à mesure que l'État retirera ses aides, ou au fur et à mesure que la crise sanitaire durera, hein, parce que il n'y a plus aucune perspective aujourd'hui de réouverture des bars, des restaurants, des salles de spectacle, etc. Et à ce moment-là, il y aura un choc sur le système bancaire. Moi, ma conviction, c'est que le système bancaire tiendra le coup. Et je peux expliquer pourquoi. D'abord, parce qu'il est très régulé. C'est la régulation de Bâle III qui s'est mise en place de 2013 à 2019. Je vais en dire quelques mots. Et c'est les deux airbags européens que sont le mécanisme européen de stabilité et l'union bancaire. Mais est-ce que mon introduction vous paraît claire?
Elle me paraît claire parce que je sais de quoi il s'agit, mais peut-être que nos éditeurs aimeraient bien savoir qu'est-ce que c'est que ce Bâle III.
Ah oui, alors ça c'est autre chose, ça c'est la régulation. Mais, non, mais l'idée que nous sommes dans une situation qui est extravagante parce que nous avons la récession sans en avoir les effets. Finalement, toute l'intervention de l'État depuis 9 mois a eu pour but de retarder les effets. Et il y a bien un moment où on aura les effets en termes de défaillance. Je répète encore une fois, le plus bas niveau de défaillance depuis 30 ans, c'est complètement fou.
Alors défaillance, ça veut dire que nous allons avoir dans quelques mois un tsunami de dépôts de bilan d'entreprise qui pourront partir potentiellement en liquidation, que nous allons avoir une augmentation du chômage, que nous allons avoir un tas de créanciers en chaîne qui n'étant pas payés risquent de se retrouver aussi en difficulté si le Covid ne les y avait pas mis avant. Donc, ça voudrait dire que notre système économique peut s'écrouler avant même le système bancaire.
Alors, je n'irai pas jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura forcément un moment où les défaillances seront beaucoup plus importantes qu'elles ne sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les aides de l'État ont créé des effets d'aubaine collatéraux qui fait qu'il n'y a pas de défaillance d'entreprise. Et de l'autre côté, les plans sociaux ont été multipliés par 3. Et il y a une croissance du crédit, merci la BCE, merci la Banque de France, qui est sans rapport avec la contraction de l'activité. Bon, donc nous sommes dans un moment de différé. Nous sommes dans un moment où tout a été reporté. Donc je réponds à votre question, Bâle III, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, ce sont les rangs de régulation bancaire qui font que de 2013 à 2019, le régulateur, qui est la BCE et la Banque de France en France, ont contraint les banques à doubler le niveau de leurs fonds propres. Ce sont des fonds propres qui sont indexés sur le niveau des risques, c'est-à-dire que les risques sont eux-mêmes probabilisés, pondérés, et donc on les a obligés à doubler, en gros, le niveau de leurs fonds propres. Donc c'est un airbag dont le seul but est d'ailleurs de faire face à des crises financières, c'est-à-dire à des défaillances et à des pertes. Le deuxième airbag lié à Bâle III, ce sont des ratios de liquidité à un mois et à un an qui n'existaient pas auparavant et qui consistent à obliger les banques à détenir des liquidités, des actifs sûrs et avec des simulations très contraintes sur leurs passifs, avec des hypothèses de bank run, c'est-à-dire de retrait bancaire qui pourraient être liées à des mécanismes de panique. Et donc, elles sont obligées de se contraindre en termes de liquidité à un mois et à un an pour être capables de faire face à des situations de crise intense. Et à un an, elles doivent même adosser les crédits qu'elles font à leurs dépôts. Alors qu'autrefois, on disait que ce sont les crédits qui font les dépôts. Là, maintenant, ce sont les dépôts qui font les crédits. Donc, je vous le résume très rapidement. L'idée, c'est de permettre aux banques de faire face à un choc. Et puis ensuite, nous avons deux airbags européens dont je vous parlerai un peu plus tard, peut-être pour vous laisser le temps de réagir.
Est-ce que on sait qu'en 2008, il y a eu cette fameuse crise. On sait aussi que pour beaucoup, notamment les banques en France, ont malheureusement, depuis un certain monsieur, je crois que c'était monsieur Pébéreau, vous me corrigerez.
Pébéreau, si oui, l'ancien président de la BNP Paribas et qui a été chargé de la Commission nationale sur la dette. Il y a déjà
qui n'a pas brillé peut-être par sa pertinence le jour où il a mélangé dans les banques d'affaires et les banques de dépôt, parce qu'on sait que la banque de dépôt est une activité, la banque d'affaires en est une autre qui fait prendre à l'établissement des risques considérables, et c'est souvent les banques d'affaires qui faillissent et qu'il faut aider financièrement. Est-ce que cette réforme que beaucoup appellent de leur vœu, est-ce qu'elle vous semblerait saine, la séparation de la banque d'affaires et de la banque de dépôt ?
Bon, le système a été re-régulé en 2011 avec la recréation aux États-Unis puis en France de ce qu'on appelait le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire que les banques n'ont pas le droit aujourd'hui de faire des opérations de marché pour leur propre compte, elles ne peuvent le faire que pour le compte de leurs clients, avec une petite marge de tolérance de 5% des capitaux propres. Mais surtout, ce que nous appelons la procédure de résolution, qui est un des piliers de l'union bancaire, c'est 2012, ça permet en cas de crise bancaire d'obliger les apporteurs de capitaux à apporter encore plus de capitaux. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'en 2008, les banques avaient été sauvées par l'État. On se souvient en France qu'on avait emprunté à bateau, puisque l'État empruntait à bateau pour prêter aux banques, et ça provoque ce qu'on appelle un aléa moral. Ça veut dire que les banques peuvent faire n'importe quoi, l'État vient les sauver après. Donc c'est un aléa moral.
Ça veut dire que les banques prennent l'État en otage et que les quatre banques françaises aujourd'hui viennent voir l'État quand elles ont des soucis en disant « écoutez, aidez-nous parce que sinon nous serons en faillite et un certain nombre de nos clients et des épargnants vont être complètement ruinés ». Ça s'appelle du chantage, ça.
Oui, alors ça, c'était 2008. Ça c'était 2008 et c'est même plus grave que ça parce que après 2008, nous avons eu une crise systémique. Alors, je vais mettre mes mains comme ça, vous voyez, ça fait système et ça fait crash. C'est-à-dire que si vous doutez de la solvabilité de l'État, vous doutez de la solvabilité des banques, et inversement, si vous doutez de la solvabilité des banques, vous doutez de la solvabilité de l'État, parce que les banques sont bourrées de titres d'État et qu'inversement, elles avaient besoin de l'État pour garder leur solvabilité. Alors, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini parce que la procédure européenne de résolution, qui est un des piliers de l'union bancaire, a été faite pour que, en cas de faillite bancaire, ce soit les apporteurs de capitaux, et ce sont les actionnaires, mais ce sont aussi les titulaires de prêts participatifs ou d'obligations, ou ce qu'on appelle de titres subordonnés, c'est-à-dire de titres qui sont remboursés quand les autres titres sont remboursés, qui devront obligatoirement apporter de l'argent en plus. Alors, dans le jargon bancaire, c'est ce qu'on appelle « buy-in » au lieu de « buy-out ». « Buy-out », c'était supporté par l'extérieur, l'État. « Buy-in », c'est supporté par l'intérieur. Donc, en cas de crise, non seulement nous avons des banques qui ont été équipées, gréées pour gros temps, avec des capitaux propres beaucoup plus importants, des ratios de liquidité, comme je l'ai expliqué, mais nous avons une procédure de régulation qui obligerait, en cas de crise bancaire, les apporteurs de capitaux à en apporter encore plus et l'État n'interviendrait pas.
Pour autant qu'il puisse en apporter, vous êtes optimiste. Si on écoute par exemple, on va prendre quelqu'un qui est assez connu et qui s'est beaucoup exprimé là-dessus, Gaël Giraud, il est beaucoup moins optimiste que vous et beaucoup plus critique sur ces banques que vous ne l'êtes, me semble-t-il.
Oui, je dirais un mot de Gaël Giraud à la fin, je peux dire tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est le mécanisme européen de stabilité, qui est un énorme airbag dont la zone euro s'est dotée en 2012, au moment où Mario Draghi a dit « croyez-moi, quoi qu'il nous en coûte ». Bon, Gaël Giraud est effectivement assez pessimiste, parce qu'il considère que les notes internes que les banques ont fait valider par le régulateur pour pondérer les risques et justifier le niveau des capitaux propres est insuffisamment sévère. Bon, c'est son opinion, il sait de quoi il parle parce qu'il a participé à ça, c'est un mathématicien qui a participé à ce système. Il considère, et il n'est pas le seul d'ailleurs, qu'il faudrait nettement plus de capitaux propres. Bon, en fait, on peut citer le chiffre, le gouverneur de la Banque de France estime que le niveau des capitaux propres par rapport au risque pondéré est de 12%, même un peu plus. Pour certains établissements, c'est 14-15%. Certains analystes, comme Gaël Giraud, pensent qu'il faudrait avoir 30%. Mais ça m'amène à signaler le mécanisme européen de stabilité. Nous avons créé, alors aucun média ne commande ça, parce que finalement, on est toujours dans le court terme, et dès que c'est un peu technique, ça n'intéresse personne. On a créé un véritable fonds monétaire européen, qu'on appelle Mécanisme européen de stabilité, qui est doté d'un capital de 80 milliards d'euros, apporté par les États de la zone euro, et qui a une capacité d'emprunt de 600 milliards d'euros. Et son rôle serait, en cas de crise bancaire ou d'État en faillite, comme on a connu avec la Grèce, d'emprunter sous signature européenne, donc à bateau, et d'apporter des capitaux en haut de bilan, en haut à droite, c'est-à-dire sous la forme de quasi-fonds propres, de prêts participatifs pour renforcer des banques qui seraient en difficulté, je pense aux banques italiennes ou aux caisses d'épargne allemandes. Il pourrait aussi d'ailleurs prêter à des États en faillite, éventuellement. Donc vous voyez quand même qu'il y a tout un arsenal à la fois de régulation interne, Bâle 3, mécanisme européen de stabilité, union bancaire, procédure de résolution, qui fait que nous sommes gréés pour un gros temps. Je pense que nous sommes gréés pour un gros temps et que nous pourrions faire face. Pour autant, ça serait une mauvaise nouvelle, parce que, à supposer qu'on sorte de la crise sanitaire, si on devait avoir ensuite une crise financière, ça ne faciliterait pas la reprise de l'économie.
Quel lien vous faites entre la défaillance d'un certain nombre d'entreprises ou d'un nombre certain d'entreprises et les risques d'une crise financière? Comment ça s'articule?
Les banques sont créancières, donc si les entreprises sont en faillite, les banques vont avoir des impayés. On estime que le système bancaire européen, les banques françaises étant d'ailleurs plutôt solides, a des risques à hauteur de 1 400 milliards d'euros, c'est-à-dire de risques provisionnés ou non provisionnés. Ça veut dire que si des chaînes de défaillance s'activent, et je vous rappelle cette prévision de plus 50% de défaillance à 2022 selon l'assureur crédit SFAC Euler, eh bien, les banques auraient des impayés, tout simplement. Elles auraient des impayés, elles auraient des pertes. Ce qui d'ailleurs amène une petite parenthèse sur les prêts garantis par l'État, 130 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Si une partie de ces prêts devait se trouver en défaillance, l'État se retrouverait actionnaire de ces entreprises, ce qui n'est pas sa vocation. Et Jacques Delarosière, dont je citerai le livre tout à l'heure peut-être, suggère de flécher vers ces entreprises les 200 milliards d'euros d'épargne supplémentaire que l'on a accumulé, puisqu'en fait, la crise du Covid a créé une surépargne, et en même temps, la création monétaire intense de la zone euro a gonflé l'épargne, parce qu'elle a gonflé la bourse, elle a gonflé le marché obligataire et elle a gonflé le marché immobilier. Et donc, Jacques Delarosière a raison, comme le Conseil d'analyse économique, d'ailleurs, auprès du Premier ministre, de proposer que cette épargne soit fléchée pour consolider la structure bilancielle des entreprises en haut de bilan, sous forme de prêts participatifs.
Bien, Maxime, il faut laisser nos auditeurs souffler après cette démonstration brillante et chiffrée. Et justement, nous allons faire notre deuxième pause musicale, vous savez que le temps passe très vite à la radio, et même pas qu'à la radio. Et donc moi je vous propose justement, on en a parlé beaucoup, vous en avez donné beaucoup, je vous propose une chanson qui sera interprétée par les Goguettes en trio, mais à quatre, ce quatuor vocal français créé en 2013, que je vous avais fait déjà écouter lors de notre dernière émission. Eh bien ils ont une chanson qui me semble parfaitement s'adapter à tout ce que vous venez de dire, ça s'appelle « Les chiffres du machin ». Nous les écoutons.
Vous êtes à longueur de journée assommé de chiffres et de machins, mais pour tout bien vous expliquer, y'a toujours un tel ou machin. Et si vous pigez pas bien le truc, vous faites pas des nœuds au machin. À tous les coups, y'en a qui ont le truc pour venir vous bourrer le machin. Il y a une légère stagnation de l'augmentation du machin qui demande une réorientation afin de relancer le machin. Vous voyez bien que tout le monde se bouge pour que les indicateurs soient bien. Et si vous les voyez dans le rouge, c'est que vous êtes un peu daltonien. Bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec d'infinies précautions. Chacun sait qu'il nous faut attendre d'avoir celui de l'inflation. Mais nom de Dieu, pourquoi attendre que tombent les chiffres du machin? Y'en a qu'ont du papier à vendre, Et en ce moment, ça sent le sapin. Bah d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, v'là qui se pointe sur TF machin, et pour commenter lui aussi les nouveaux chiffres du matin.
Y'a comme une nette diminution de l'augmentation du machin, ce qui fait qu'on aura l'inversion de la courbe que dimanche prochain.
Sauf qu'il y a les charges qui font pression sur les mécanismes du machin. Du moins ce qu'en dit l'opposition, c'est qu'il faudrait y mettre un frein. Laissez donc faire les spécialistes qui ont toujours les mains dans le machin.
Tous ces brillants économistes qui ont le bac ES.
Mention moyen. Il faut insuffler la confiance et faire levier sur les machins afin de relancer la croissance pour vous faire acheter plein de machins.
Mais en matière d'économie, si plus personne n'y pige rien, c'est qu'il faut de la pédagogie pour vous convaincre que tout ira bien.
Il faut un approfondissement de la baisse de l'augmentation du statu quo de l'accroissement, sinon vous manquez d'ambition.
Car les chiffres ne sont pas propices.
Et si la croissance est en baisse,
c'est pas du tout à cause des Suisses, mais plutôt de l'âge
du capitaine.
Bref, vous êtes tous les quatre matins accablés de chiffres et d'ennuis.
Et si vous n'y comprenez rien, hurrah, Marine a tout compris.
Oui, elle a refait tous les calculs et c'est encore un coup des picots. Si le chiffre de la croissance est nul,
c'est eux qui ont inventé le zéro.
Voilà, les goguettes en trio, mais à quatre, les chiffres du machin, donc une chanson qui était parfaitement en adéquation avec les propos que nous tenons. Nous espérons que vous avez apprécié. Alors, Magide, je dérape complètement, vous voyez, je ne sais pas si c'est le Covid. Vous nous avez expliqué les crises, les risques de crise financière que vous...
Alors, le Covid peut toucher le cerveau, mais vous ne m'avez pas l'air atteint.
Je dérape quand même, c'est l'âge peut-être, je ne sais plus, ou l'Alzheimer, je suis guetté par toutes sortes de choses. 2021-2022, nous avez-vous dit, risque de crise financière, mais... on peut la parer, cette crise financière. Alors, comment peut-on la parer? Est-ce que vous avez des recettes?
Les recettes, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que d'abord, elles ont des capitaux propres beaucoup plus importants que par le passé, donc elles pourront amortir leurs pertes. Il n'y aura pas d'amplification par la crise de liquidité parce qu'elles ont des ratios de liquidité. Elles pourront se voir apporter des capitaux par le mécanisme européen de stabilité. La méthode de résolution fera appel aux capitalistes en haut du bilan à droite pour apporter des capitaux supplémentaires.
Ah, d'accord, ce sont les banques. Bon, on ne va pas s'appesantir trop sur les banques, mais comment notre système économique qui va voir certains pans entiers s'écrouler, déposer les bilans, etc., comment tout cela peut se relever? Est-ce que vous pensez qu'il faudra 6 mois, 1 an, 5 ans, que sais-je? Est-ce que l'État va exiger que les avances qu'il a faites, les prêts qu'il a cautionnés, lui soient remboursés? S'il y a dépôt de bilan, bien évidemment, il sera dans les créanciers, mais s'il y a liquidation, il ne sera jamais payé. Comment tout ça va s'articuler? Et quand est-ce que, si l'on peut donner une date, on aura une meilleure vision d'un redémarrage de l'économie possible?
Alors, tout dépend de la crise sanitaire, et actuellement, nous sommes vraiment dans le brouillard. Vous avez vu le professeur Delfraissy, il y a quelques mois, il disait « on va sortir en été », puis après, il a dit « on va sortir en automne », et maintenant, il dit « on va sortir à la fin de l'année ». Donc, pour le moment, le brouillard de la crise sanitaire ne nous permet pas de répondre. Si on sort de la crise sanitaire, ce qui est quand même probable à la fin de l'été, et on va en sortir progressivement, hein. À ce moment-là, on peut espérer que peut-être les secteurs de l'économie qui sont paralysés se ranimeront pendant l'été. Et la prévision, je peux citer celle de la Banque de France, mais c'est à peu près aussi celle du Fonds monétaire international et de l'OCDE, d'une croissance économique de 5% pour l'année, devient réaliste. Bon, à ce moment-là, l'État retire progressivement ses aides, sachant qu'il y a eu, je le répète, des effets d'aubaine dans ces aides, hein, puisqu'il est complètement anormal que les défaillances soient au niveau le plus faible depuis 30 ans. Bon. Mais à ce moment-là, on peut avoir un choc financier très limité sur le système bancaire et une reprise économique progressive dans le courant de 2022-2023. Mais tout dépend de la crise sanitaire. C'est pour ça que nous en avons parlé. Nous sommes dans le brouillard.
Donc aujourd'hui, il est impossible de faire des prévisions. Alors, c'est toujours délicat de faire des prévisions sur l'avenir, hein, vous le savez, mais on est dans le brouillard aujourd'hui et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce qu'il faut conclure.
Oui, il y a une très grande prétention des organismes internationaux et même des institutions de faire des prévisions économiques. Et j'apprécie la sincérité de Patrick Artus qui dit « mais si les vaccins restent dans le frigo », ou si les vaccins ne sont pas au bon endroit au bon moment, et moi j'ajoute, et si on n'a pas les personnels pour vacciner, la croissance en 2021 peut être limitée à 2%. Et comme nous avons perdu 9% l'année d'avant, vous voyez que le compte n'y est pas, et vous voyez qu'en bout de course, il va y avoir des chaînes de défaillance. Hein, c'est aussi simple que ça.
Qu'est-ce que vous pensez, et je reviens un peu là, des choses très basiques et très... terre à terre. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui affichent sur des réseaux sociaux « je ne me confinerai pas » Est-ce que vous... Et on en voit. Alors bon, c'est souvent à peu près la même tranche de gens, mais dont nous connaissons les modes de fonctionnement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Je crois qu'il faut d'abord se méfier du mot « confinement ». Parce que, encore une fois, ce mot, maintenant, est devenu un mot connoté. Il faut dire la vérité. Bon, j'ai essayé de le faire avec les graphiques du Conseil scientifique en regrettant que le journal Le Monde ait été le seul journal à les publier. Et il faut ensuite voir quelles sont les mesures qu'on prend. Donc moi, je vous ai proposé 5 mesures tout à l'heure. Est-ce que les gens sur les réseaux sociaux valideraient mes 5 mesures ou pas? Je n'en sais rien. Mais confinement, oui, le mot est terriblement connoté négativement parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien et que finalement tous les efforts qu'on leur a demandés n'ont servi à rien. Mais il y a aussi le problème de l'information. Est-ce qu'on a compris ce que c'était que les variants? Est-ce qu'on a compris ce qu'était la loi de Darwin? Est-ce qu'on a compris que dans un mois, nous allons, si nous ne respectons pas les gestes barrières, nous allons tomber comme des mouches, hein, parce qu'avec un virus à 70% de contagiosité en plus. Donc, votre question est ambiguë parce que l'information elle-même n'est pas claire, enfin, les gens qui réagissent comme ça n'ont pas une information claire, et que derrière le mot confinement, regardez le confinement que nous avons eu en novembre, décembre, il n'avait rien à voir avec celui du mois de mars. Donc je me méfie un peu de ce mot. D'ailleurs, moi je pense qu'il ne faut pas faire un confinement, il faut faire des mesures strictes, par exemple empêcher les déplacements le week-end et appeler les personnes que nous sommes à s'auto-confiner. Et puis ensuite recruter des personnels de santé supplétifs. Voilà mon...
Et nous vous avons entendu, nous allons voir hein, les prochains jours ce qui va se passer, puisque maintenant il va falloir quand même prendre des décisions et aller dans un sens ou dans un autre. Donc on verra.
Jacques, je vais vous retourner une question. Que pensez-vous de la réaction des réseaux sociaux dans un mois et demi si nous avons des milliers de personnes en train d'agoniser chez elles? Vous voyez ce que je veux dire? Si, comme on nous le dit, il n'y a pas de mesures, bon, je pense qu'il va y avoir des mesures, le président Macron va prendre des mesures, mais s'il n'y avait pas des mesures et qu'on ait besoin de 30 000 lits alors qu'on en a 5 000, vous imaginez la catastrophe.
Poser la question comme vous le faites, c'est quasiment y répondre, puisque si on a du bon sens, c'est de la logique.
C'est pour ça qu'en fait, vous savez, bon, moi j'ai cité Winston Churchill tout à l'heure, parce que j'aimerais qu'on ait des dirigeants qui parlent au peuple, et je partage l'avis de votre ami Larouille, Pierre Larouille, hein, c'est ça, qui disait l'autre jour dans votre autre émission, nous n'avons plus de dirigeants qui parlent au peuple et nous avons toujours un temps de retard en matière d'anticipation. Et j'ai aussi apprécié ce que vos invités américains ont dit du président Biden. C'est pour ça que j'ai un petit moment d'espoir. Donc voilà, je crois que c'est ambigu parce que les réseaux sociaux réagissent avec... l'information qu'ils ont.
Oui, ok.
Et puis alors, il y a des mouvements d'humeur. Comprenez, tout ça, c'est de l'humeur. Si on avait le général de Gaulle, il lancerait un appel, il expliquerait la situation et tout le monde suivrait. Quoi. Il y aurait pas. Voyez.
Donc, à l'époque, tout le monde avait plus ou moins suivi. Nous ne sommes plus du tout dans la même époque avec les gens ne pensent plus, ne réagissent plus pareil. Et peut-être un jour, nous aborderons cette question. Je vous avais conseillé la semaine dernière le livre, pas la semaine dernière, mais à notre dernière émission, le livre de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive. J'étais en plein dedans, je l'ai terminé. Eh bien, si vous voulez avoir la réponse à ces questions, lisez-le, vous l'aurez. Il est extrêmement clair sur cette problématique.
Mais on peut comprendre ses réactions, parce que depuis un an, nous avons tourné en rond. Depuis un an, nous avons tourné en rond. La situation est beaucoup plus grave qu'elle était il y a un an. Donc, qu'ils disent « je ne me confinerai pas », c'est un mouvement d'humeur qu'on peut comprendre. Mais ensuite, eh bien, c'est au chef de l'État de guider son peuple dans la bonne direction et de passer par-dessus cette humeur.
Bien, je vous propose d'évoquer deux brèves pour nous aérer un peu l'esprit. Alors, bon, une qui peut prêter à sourire, quoique, puisqu'on a beaucoup parlé de banques. Parlons d'une banque qui s'appelle la BNP et qui a décidé faire payer ses conseils aux clients, c'est-à-dire les conseils de base. Donc aujourd'hui, à la BNP, qui fait quand même, hein, qui a en 2000, le deuxième trimestre 2020, son bénéfice était quand même de 2 oui. milliards d'euros, donc elle n'est pas à la rue, ils ont décidé…
Vous avez dit de combien ? De 3 milliards d'euros ?
2 milliards d'euros.
2 milliards, oui, c'est ça.
Ils ont décidé aujourd'hui que, ils feraient payer leurs conseils. Et alors, l'article du Canard Enchaîné, puisque j'ai toujours plusieurs journaux que je lis régulièrement, mais là, c'était le Canard Enchaîné qui le relate en première page, dit c'est comme si vous achetiez un rôti chez le boucher et qu'il vous répondait, quand vous lui demandez le temps de cuisson, « Ah, madame, le conseil est payant », ben, c'est à peu près ce qui va se passer à la BNP. C'est extrêmement surprenant. Alors, on est déjà dans l'aberration nationale, puisque les comptes bancaires ne sont pas rémunérés, que le moindre virement d'argent coûte un bras, comme dirait un certain, et qu'en 10 ans, les frais bancaires ont augmenté de 1095%, excusez-moi du peu. Donc, la BNP, seconde banque européenne tout de même, hein, et pleure toujours misère. Donc, je trouve ça un peu surprenant. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah ouais, ce que j'en pense, c'est tout simplement que depuis 10 ans, la capitalisation bancaire a diminué de 70%. Pourquoi ? Parce que la rentabilité bancaire a profondément diminué. Pourquoi ? Vous avez un numérateur, un dénominateur. Au dénominateur, vous avez de plus en plus de capitaux, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui ont été imposés par le régulateur pour constituer des airbags. Et au numérateur, comme vous avez des taux d'intérêt négatifs aujourd'hui, et que le banquier vit de la transformation de ressources courtes, gratuites, employées à long terme avec un taux d'intérêt, les marges bancaires sont réduites quasiment à néant. Donc, je ne pleure pas sur la BNP, et on peut discuter cette mesure, mais la rentabilité du système bancaire a profondément baissé. Alors, les banquiers cherchent les moyens de gagner de l'argent.
Autre horizon, l'outre-Rhin, l'Allemagne, où il y a un grand débat qui vient…
Moi, je vous précise tout de suite, j'ai besoin d'aucun conseil, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que ma banque me donne mes conseils parce que je sais exactement ce que je veux. Donc...
Pas non plus, mais nos concitoyens ont quand même besoin d'être guidés. Donc, dis-je, un grand débat qui vient de s'ouvrir en Allemagne, on dirait que les lignes bougent, et il concerne les sacro-saintes règles budgétaires et le sujet de la dette. Oui. Monsieur Helge Braun, qui est le chef de la chancellerie fédérale, autrement dit, c'est le bras droit d'Angela Merkel, a appelé dans un papier qu'il a fait à s'affranchir durablement des règles de discipline budgétaire qui sont en vigueur depuis 11 ans pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie Covid-19. Alors, c'est assez bref, je vous dis ce qu'il a écrit. Le frein à la dette ne pourra pas être respecté dans les années à venir, même en observant une stricte discipline en matière de dépenses. C'est pourquoi il serait judicieux de combiner une stratégie de relance de l'économie allemande avec un amendement à la loi fondamentale, comprenez la Constitution, prévoyant un corridor pour de nouveaux emprunts sur une base limitée et fixant une date précise de retour à la règle concernant la dette. Donc, ça voudrait dire que la sacro-sainte orthodoxie budgétaire qui a en Allemagne une valeur de dogme quasi intangible, hein, on a vu ce qui s'est passé, serait très sérieusement écornée. Ça a fait l'objet d'une petite bombe politique, et toute la journée, les dirigeants de la droite ont condamné vertement, et en des termes parfois assez durs, le propos de M. Helge Braun. Alors, qu'en pensez-vous, Maxime, de ça?
J'en pense exactement ce qu'en pensent aussi Olivier Blanchard et Jean Tirole dans les Échos d'hier, et qui disent que nous sommes dans une période où il faut investir. Et comme on emprunte à des taux d'intérêt négatifs, Et alors l'Allemagne emprunte à des taux d'intérêt fortement négatifs, l'orthodoxie budgétaire. Alors, tout dépend de ce que vous appelez l'orthodoxie budgétaire. Moi, je pense qu'il ne faut pas emprunter pour boucher des trous, par exemple dans les retraites. Suivez mon regard. Mais emprunter pour investir, et y compris dans le domaine de la santé, de l'éducation, c'est-à-dire du capital humain, moi, ça ne me choque pas. Ça me choque d'autant moins que cette dette est neutralisée dans les comptes des banques centrales, puisque, comme je vous l'ai expliqué lors d'une émission précédente, la dette Covid a été rachetée aux trois quarts par les banques centrales et la dette totale a été rachetée. Le chiffre est confidentiel, mais on l'estime entre un tiers et une moitié. Ce qui fait que si demain il devait y avoir une augmentation des taux d'intérêt, l'État allemand paierait des intérêts à la Bundesbank et la Bundesbank les lui rendrait ensuite sous forme de dividendes. Donc, tant que c'est pour investir, c'est de la bonne gestion. Et donc, ils ont assoupli leurs règles budgétaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour un retour à des règles, parce qu'il faudra bien que les Européens, quand même, définissent des règles communes, à nouveau, parce que nous partageons une monnaie. Donc, il faudra bien qu'il y ait des règles communes. Mais ça ne me choque pas du tout que, pour le moment, on décide d'emprunter massivement pour investir. Mais pas pour boucher des trous, attention.
Ce n'est pas encore dans le logiciel de réflexion allemand, mais peut-être vont-ils y venir. En tout cas, certains partis politiques allemands l'appellent de leur vœu, mais ils sont loin d'être majoritaires. Maxime, nous arrivons à nos dernières rubriques. L'économie en Occitanie, est-ce que vous avez…
Rien à dire.
Moi, j'ai quelque chose à dire. Je vais manifester un étonnement. J'ai vu que notre présidente, Mme Delga, avait annoncé son désir d'acheter des vaccins. Elle n'est pas seule, d'ailleurs, d'autres présidents de région l'ont fait.
Mais elle les a achetés où?
Ben, justement, je n'ai pas compris, puisqu'on sait que les laboratoires ne traitent qu'avec l'Europe pour ce qui est de notre région, qu'ils ont beaucoup de mal à honorer les contrats qu'ils ont signés, envoyer les doses qui étaient mentionnées dans ces contrats. Donc, je ne vois pas très bien vers où Mme Delga ou le président de la région PACA également est allé dans ce sens. Est-ce que c'est une pure annonce préélectorale, puisque peut-être, éventuellement, on verra où en est le Covid, nous voterons peut-être en juin pour désigner nos nouveaux présidents de région. Alors, c'est peut-être une manœuvre électorale. J'ai pas compris où allait Mme Delga et certains de ses collègues sur cette voie. Ça m'a étonné. Voilà, c'était juste un étonnement. Dernière rubrique, le conseil culturel. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, éventuellement futurs confinés, pour qu'ils puissent s'occuper?
Alors, moi, j'ai lu l'interview de Jacques Delarosière, qui était mon patron quand j'étais directeur adjoint de la Banque de France à Nanterre et qu'il était gouverneur. C'est un grand monsieur qui est un grand serviteur de l'État et qui est un grand serviteur de la planète. Il a été directeur général du Fonds monétaire international. Il a édité un livre qui s'appelle « 40 ans d'égarements économiques ». Quelques idées pour en sortir. Et notamment, il conseille, et il n'est pas le seul d'ailleurs, de flécher cette épargne supplémentaire, 200 milliards, c'est pas rien, pour renforcer la situation bilancielle des entreprises et renforcer les fonds propres des entreprises. Parce que l'État va être subrogé dans les créances des banques par le biais des prêts garantis par l'État, en partie. Et après, il n'a pas vocation à être actionnaire. Donc, l'idée serait après d'être subrogé par ses épargnants pour renforcer les fonds propres. Et comme les entreprises françaises sont terriblement endettées, je pense que c'est une bonne idée. Mais je pense que son livre est beaucoup plus riche que ça.
Alors, on rappelle le titre.
Jacques Delarosière, il a 92 ans, 40 ans d'égarements économiques. Bon. Quelques idées pour en sortir chez Odile Jacob,
qui est une maison d'édition relativement scientifique et très sérieuse. Alors moi, je vais vous amener ailleurs, mais un ailleurs dont on a quand même passablement parlé dans cette émission, c'est les États-Unis, et vous conseillez chaudement la lecture d'un livre qui s'appelle « Une terre promise » chez Fayard, écrit par M. Barack Obama. C'est un très gros livre, il fait 800 pages, mais il est écrit par un Américain. Donc
c'est un livre à 1 milliard d'euros.
Voilà, c'est un livre à 1 milliard d'euros, un gros livre, mais qui permet de mieux connaître un homme, et puis surtout un pays qui a toujours fasciné la France, et qui nous permettra peut-être de prendre conscience que par-delà les mers et par bien des côtés, ce qui se passe aux USA n'est pas finalement si différent de ce que nous connaissons dans notre hexagone. Alors, vous allez retrouver les crises. On a beaucoup parlé des banques. Eh bien, vous verrez comment M. Obama, qui est arrivé en plein au milieu de la crise économique, de la dernière crise économique, a pu se débrouiller. Qu'est-ce qu'il a pensé des banques? Qu'est-ce qu'il a pensé des républicains? Comment ils ont manœuvré pour essayer de redresser le pays et de faire que un minimum d'Américains soit trop lourdement impacté. C'est très, très intéressant de voir fonctionner la Maison-Blanche de l'intérieur et de voir un homme dont on dit qu'il est peut-être un des dirigeants les plus puissants du monde, qui fait de façon très sincère l'aveu par moment, pas de son incompétence, mais du fait qu'il n'arrive pas véritablement à peser sur les événements, qu'il n'arrive pas à renverser certaines tendances et qui fait quelque part ce qui est un aveu d'impuissance. Oui.
Alors, le livre est sans doute très intéressant. Moi, je suis toujours choqué quand une personne qui a reçu un mandat de ses concitoyens fait ensuite un livre pour 1 milliard d'euros, ou même pour 100 millions, ou même pour…
Je crois qu'on ne lui a payé que 80 millions d'euros. Hein. Ça a été…
Ah bon, et le milliard, c'est quoi alors?
Ah, je ne sais pas. Je serais ravi bon. Qu'on me donne ça pour écrire un livre, je m'appliquerai. Bon. Mais on l'a acheté, car on lui a fait un chèque, l'éditeur américain a fait un chèque de 80 millions, effectivement.
Bon. C'est ça qui me choque un peu dans cette affaire.
Ah enfin. Ben oui, comme vous savez, compte tenu de… Il sera vendu sur la terre entière, je pense que ce n'est que, oui, si on le ramène à un auteur français…
Ah oui, mais à ce moment-là, il faut reverser à une fondation, parce que, si vous voulez, ça me choquait beaucoup avec le président Sarkozy aussi. Hein. C'est quand on a reçu un mandat de ses concitoyens, c'est une action de service public. Moi, j'estime qu'on ne doit pas faire de l'argent avec, mais c'est mon côté gaulliste, hein. C'est mon côté un peu vieille France. Voilà.
En dehors de cet aspect-là, le livre est quand même fabuleusement intéressant parce qu'on voit cette démocratie. Ce garçon écrit de façon très directe, il emploie un vocabulaire très simple, parfois même très cru, et c'est fabuleusement intéressant parce qu'il y a beaucoup quand même de fantasmes sur la Maison-Blanche et le président des États-Unis. Voir ce fonctionnement de l'intérieur, voir comment il a pu y accéder, voir comment il a pu peser ou pas sur les événements. Alors, il est assez discret sur certaines, peut-être, de ses erreurs ou de ses errements en politique étrangère, mais le livre reste quand même tout à fait passionnant et d'une grande simplicité de lecture. Donc, je vous le rappelle, Une terre promise, Barack Obama, chez Fayard. Ça, c'était pour le conseil. Une annonce que je voulais vous faire, le podcast de l'émission Cap Cap, durant laquelle j'ai reçu Jean Gattel, qui est économiste comme vous, Maxime, et qui fut secrétaire d'État dans plusieurs gouvernements, est à votre disposition. On a fait cette émission lundi dernier, et je profite pour vous rappeler son dernier ouvrage qui m'avait incité à l'inviter. Ça s'appelle « L'économie sociale et solidaire », sous-titré « Un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir ». C'est publié chez Libre et Solidaire et il y a une grande partie du livre que vous ne renieriez pas, comme je ne l'ai pas renié, puisqu'il traite d'un sujet qui nous est cher et qui est les problèmes à venir causés par le réchauffement climatique, par la déplétion des matières premières et bien évidemment par la pollution. Voilà. Jean Gattel, le podcast de Cap Cap. Maxime, nous sommes arrivés largement à la fin de cette émission. Donc, nous nous retrouverons, j'imagine, d'ici une quinzaine de jours, en espérant que ce que nous aurons à vous dire permettra de susciter un peu plus d'optimisme que ce que nous avons dit aujourd'hui. Mais encore une fois, on est dans le brouillard, donc… Nous allons croiser les doigts, regarder, réfléchir et attendre. Maxime ?
Oui, très bien.
C'est un programme qui vous convient ?
Oui, enfin, moi, je ne pense pas qu'on soit dans une meilleure situation dans 15 jours, puisque dans 15 jours…
J'ai essayé d'introduire sur la fin une note…
Oui. Enfin, moi, j'espère que d'ici 15 jours, on aura pris les bonnes mesures pour anticiper ce qui va se passer dans la période qui vient. Voilà l'espoir.
Croisons les doigts pour qu'il en soit ainsi. C'était Economica, une émission de Maxime Maury et de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Yanis Boudin, une émission que vous pourrez retrouver sur le site de la station avec bien sûr tous les autres podcasts. Et je vous donne rendez-vous, ainsi que Maxime Maury, d'ici une quinzaine de jours pour faire une nouvelle analyse de notre situation sanitaire et économique. Belle soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous.
Merci.